Extrait de films, photographies, peintures, dessins ou sculptures, venez découvrir l'univers coloré et musical de Jacques Demy. Le monde enchanté de Jacques Demy, une exposition à retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Radio France, avec le Crédit Mutuel et l'Olympia, fête la musique le 21 juin pour faire avancer la recherche contre le mélanome. 20 heures d'émissions et de concerts gratuits à l'Olympia, toute la journée, dès 7h du matin. Avec Zazie, Balthazar, Arnaud, Christophe, Rover, Soulman, Olivia Ruiz, Pedro Winter, 1995, La Grande Sophie avec les musiciens de Radio France et bien d'autres. Venez nombreux, toutes les infos sur radiofrance.fr.
France Inter,
la voix est libre.
Il paraît que c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet, alors fonçons.
Bonjour Isabelle de Grèce, Thessalonique. Je viens d'ouvrir la télé, rien, écran noir, gris. Je viens d'allumer ma radio, rien. Silence total. La décadence, rien à ajouter.
Bonjour à tous. Ce message pour annoncer que la mafia qui prend possession de l'Europe et qu'on appelle la Troïka vient de remporter encore une très grande victoire en Grèce. Cette nuit, à 23h, heure locale, le gouvernement a décidé d'arrêter toutes les chaînes de télévision du groupe ERT, l'équivalent de France Télévisions chez nous, dans le but de fermer tout simplement les chaînes publiques et d'envoyer tous les 2656 salariés à la rue. Voilà.
Marine Le Pen prétend n'avoir aucun contact ni aucun rapport d'aucune sorte avec les jeunesses nationalistes révolutionnaires de Serge Ayoub. De même que son coprésident de Paris, lui, prétend ne même jamais en avoir entendu parler. Alors quand le petit journal sort une photo de Marine Le Pen dans le bar de ce même Serge Ayoub, entouré de membres des jeunesses nationalistes révolutionnaires, tous les médias, sans aucun doute, vont reprendre cette photo. Enfin pas ce matin, enfin pas cet après-midi, pas ce soir non plus. Tiens, ça commence à être bizarre ça.
Ils ont les milliards et nous sommes des millions dont la vie est atteinte par les financiers qui, pour leur profit, nous imposent l'austérité. Chômage, précarité, baisse des salaires et des retraites, destruction des services publics tels que les hôpitaux et l'école. La liste est trop longue, mais vous en connaissez tous quelques détails qui vous touchent personnellement, de façon plus ou moins dramatique. Si les effets sont multiples, la cause est la même pour tous. Le capitalisme incarné aujourd'hui par son avatar le plus aveugle, la finance. À écouter les chiens de garde, que nous nommons encore par charité journalistes et experts, nous n'avons pas d'autre solution que de nous résigner, nous aplatir et prier je ne sais quelle puissance que le plus dur tombe sur le voisin plutôt que sur nous-mêmes. Vous capitulez ? Bravo, rien ne leur fait plus plaisir. Mais nous sommes trop indisciplinés pour leur faire ce cadeau et assez sages pour nous organiser. Puisqu'ils prétendent ne pas trouver d'autre solution que de nous serrer la ceinture pour nous promettre, peut-être, si le dieu capital le veut bien, des lendemains qui chantent, nous allons chercher à leur place et nous trouverons. C'était François à Saint-Quentin dans l'Aisne.
Ici le repère de Marseille. Aux États-Unis, dans les années 50, la chasse aux rouges qui a abouti à l'interdiction de travailler dans l'industrie du cinéma pour un certain nombre de scénaristes, de metteurs en scène et d'acteurs, est souvent présentée comme la conséquence de la guerre froide. S'attaquer aux rouges d'Hollywood permet d'atteindre un double objectif, celui d'avoir une lisibilité parfaite dans les médias et celui de mettre en scène une tragicomédie qui sert de support à la mise au pas intellectuelle de l'industrie du cinéma. René Teboul, maître de conférences en économie politique, viendra nous parler de la chasse aux sorcières aux USA dans les années 50, ce jeudi 13 juin à l'Équitable Café, qui se situe sur le cours Julien à Marseille. Bonne journée à tous.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, rencontre avec des papis bien tranquilles, 75, 80 et plus. On est sur la côte, le soleil, le pastis, on bavarde, on rigole. Sauf que ces braves papis ont du sang sur les mains. attentats, hold-up, coups tordus, si on tend l'oreille. Ils en parlent, ils se marrent et ils se racontent leurs faits d'armes comme des anciens combattants. Ils la ramènent, ils élèvent la voix, ils savent très très bien ce que vous pensez d'eux. Vous pensez que ce sont des assassins, des terroristes. Et eux se voient, figurez-vous, comme des résistants, des héros d'un rêve perdu et d'une cause perdue, l'Algérie française. Ce sont des anciens de l'OAS. Bien sûr, ces anciens ne parlent pas tous. Le temps passe et éclaircit les rangs. Certains se sont exilés, certains se taisent, certains se sont fait oublier. Mais il y a ceux-là, ces anciens de l'OAS, qui se défendent, qui racontent l'histoire à leur manière et qui n'ont rien de rien, ne regrettent rien. C'est eux qu'on rencontre aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Baladez-vous en ville et puis regardez un petit peu votre environnement, regardez comment ne plus payer d'impôts. Le sport national, c'est aujourd'hui ne plus payer d'impôts. Donc vous voyez des résidences pour personnes âgées, vous achetez une chambre pour une personne âgée, vous allez déduire de votre impôt. Pourquoi pas acheter un déambulateur et économiser 10 euros d'impôts. Des chambres d'étudiants, vous achetez un clapier de 10 mètres carrés, vous allez pouvoir aussi déduire de votre impôt, ne plus payer d'impôt. Je me demande pourquoi ils n'ont pas pensé à acheter une prison, aussi une cellule, pourquoi pas une école primaire, aussi acheter une classe de CM2, de CM1, et puis déduire de l'impôt. Voilà, c'était une réflexion comme ça de personnes terriblement agacées par ce système totalement délirant. Et puis une personne qui demande du Lordon, du Frédéric Lordon. Donne-nous du Lordon pour nous soulager un peu.
Bonjour, j'entends ce matin sur France Inter qu'à Lyon, en ce moment, ce matin, on est en train de simuler des attaques terroristes. Alors, pourquoi pas, justement, simuler, je dis bien simuler, des licenciements en masse, ou voilà, des fermetures d'entreprises en masse, pour apprendre aux gens au maximum à se solidariser, à se bouger, quoi. Et puis, pourquoi pas, justement, les syndicats, les responsables syndicaux, devraient pas simuler, par exemple, les grèves générales, par exemple, vous voyez, simuler, pourquoi pas, pour apprendre les gens, enfin, à être solidaires, à se mobiliser.
Oui, bonjour, c'est Marie-Vonne dans le Finistère. Je voulais vous faire savoir qu'actuellement, dans le Finistère, à Lampaul-Guimillot exactement, les salariés de l'abattoir GAD se battent pour empêcher la fermeture de leur usine, soit 850 personnes. Voilà, encore une fermeture de plus dans le Finistère. Merci.
Je vous ai compris!
Le général de Gaulle. Alger, le 4 juin 1958.
Je sais ce qui s'est passé ici!
Je vois que vous avez un tatouage.
Ça représente des pieds, tout simplement.
Des pieds noirs.
Des pieds noirs, oui.
Quelque chose d'écrit autour, mais j'arrive pas à lire.
Oui, c'est difficile à lire parce que bon, les années ont passé. C'est marqué par la haine. Parce que nous sommes un peuple marqué par la haine.
Des pieds noirs ?
Les pieds noirs. Les Français d'Algérie.
Ça signifie quoi ?
Ça signifie que 50 ans après, on est encore les mal vus, les pestiférés de la République.
Leur année entière vient elle aussi entendre la réponse que De Gaulle apporte en écho à son appel angoissé. Oui, 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 la France est ici, elle est ici pour toujours.
6 juin 1958.
Il faut qu'il n'y ait en Algérie rien autre chose, mais c'est beaucoup, rien autre chose que 10 millions de Françaises et de Français avec les mêmes droits. Avec les mêmes droits. Et les mêmes devoirs. Vive le Saganem. Vive l'Algérie française.
On était tous des gaullistes. On a fait venir De Gaulle pour qu'il nous sauve. Et puis De Gaulle, il nous a menti, De Gaulle. Il nous a trahi. Il nous a trahi. Le salaud. Je suis passé à Colombe et aux Églises, j'ai craché sur la tombe, il dit salaud.
Ici Radio France, la voix de l'Algérie française.
Ces gens se sont mis en colère et ont pris des armes pour se défendre, mais toujours dans l'objectif l'Algérie française. L'Algérie française. Nous voulions que l'Algérie reste française. Un point. Barre. C'est tout.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis avec Charlotte Perry, non, non, rien de rien. Les anciens de l'Ouest ne regrettent rien.
Flight number 2, arriving from New York.
On peut maintenant discerner le moment où les femmes et les hommes qui habitent l'Algérie seront en mesure de décider de leur destin une fois pour toutes, librement, en connaissance de cause.
Le général de Gaulle, 16 septembre 1959.
Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Ce critérium permettra de commencer la période où tout devrait être remis en place.
Ici, la voix de l'Algérie française.
Septembre 59, tout bascule ce jour-là dans ce discours du général de Gaulle qui annonce l'autodétermination, c'est-à-dire à terme l'indépendance, c'est-à-dire à terme la fin de l'Algérie française, c'est-à-dire à terme cette rupture, cette blessure profonde qui, des années plus tard, plus de 50 années plus tard, a tant de mal à se refermer et où prend racine beaucoup de notre histoire actuelle. Je pense à la résurgence des groupuscules d'extrême droite, par exemple, le Front National, bien sûr, l'islamophobie rampante ou décomplexée qui gagne chaque jour. Évidemment, il n'y a pas de cause à effet direct, mais tout un refoulé, tout un ressentiment profond qui se réveille dès que le temps s'assombrit et dès que les fenêtres deviennent des murs. Aujourd'hui donc, avec Charlotte Perry, rencontre avec ces anciens de l'OAS qui ne regrettent rien, quelques mots rapides sur l'OAS, OAS, Organisation de l'Armée Secrète, qui apparaît au printemps 61 et se dissout en juillet 62, au terme d'une invraisemblable spirale de violence, assassinats, attentats, hold-up, coups tordus, opérations terre brûlée. Bilan de ce combat désespéré, 13 000 attentats, 2 200 victimes, côté OAS, une centaine de morts, dont 4 fusillés, toujours vénérés aujourd'hui comme des martyrs par les survivants de cette dernière guerre civile qu'a connue la France, le nationalisme contre la nation. Alors, qui étaient ceux de l'OAS? C'est une histoire compliquée, mais on trouvait là l'extrême droite française, les Européens les plus ultras, des militaires en rupture, toutes sortes d'aventuriers, mais aussi des gens ordinaires, des pieds noirs qui se sentaient, qui se disaient trahis par le général de Gaulle et qui ne voulaient pas lâcher, et aussi des patriotes inspirés par la résistance française. Les cibles, des musulmans à 90%, souvent évidemment membres du FLN, militants du FLN, des policiers chargés de la lutte anti-OAS, des Européens favorables à l'indépendance, sans oublier bien sûr les fameuses barbouzes, sans oublier l'armée française elle-même, sans oublier le putsch du 21 avril 1961 par le carteron de généraux, comme les avait appelés le général de Gaulle, sans oublier non plus les opérations opération Les Nuits Bleues en métropole, OAS vaincra, OAS veille, l'OAS tue quand elle veut, où elle veut. Au cours de ces mois, la terreur s'était propagée à la métropole, l'OAS assassinera 71 personnes, multiplie les attentats contre des journaux, contre des personnalités, jusqu'à la Grande Zora. La Grande Zora, c'est comme ça que les gens de l'OAS appelaient le général de Gaulle, jusqu'à l'attentat du petit Clamart en août 62, dont l'auteur Bastien Thierry est toujours célébré aujourd'hui par les nostalgiques de l'OAS, et qui marquera la dernière convulsion de l'OAS. Au total, 10 000 membres de l'OAS passeront par la case prison, 3 682 seront condamnés, 4, je l'ai dit, seront fusillés, et tous furent amnistiés par le général de Gaulle en 1968. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les survivants sont toujours là avec leurs associations, leurs publications, leur pèlerinage, leur influence, leurs anciens qui figurent quelquefois parmi nos élus de la République et qui ont tous un point commun. Non, les anciens de l'OAS ne regrettent rien.
Fils du Djebel et de la plaine, l'Édouard des champs et des cités, de nos mains formons une chaîne d'amour et de fraternité. De nos mains formons une chaîne d'amour et de fraternité. Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Comme Sud de 93, tous nos enfants se sont levés. Aux accents de la Marseillaise, ils ont juré le 13 mai que désormais et à jamais l'Algérie resterait française. Nos femmes et nos pères ont fait ce pays de leurs mains. Nous voulons faire avec nos frères la grande France de demain. Nous voulons faire avec nos frères la grande France de demain. Algérie, Algérie française, ton jour de gloire est arrivé. Comme Sud de 93, tous nos enfants se sont levés. Aux accents de la Marseillaise, ils ont juré le 13 mai que désormais et à jamais l'Algérie resterait française.
Alors là, je me trouve à hier. Dans le Var, je marche sur une petite route bordée de palmiers et on se rend chez Jean-François Collin, qui est ex-conseiller municipal Front National ici à Hyères et qui est également président de l'ADIMAD. L'ADIMAD, c'est l'association de défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus de l'Algérie française, autrement dit des anciens de l'OAS. L'ADIMAD, c'est tout simplement la plus grosse association d'anciens de l'OAS, puisqu'elle revendique environ 3000 adhérents et plus de 4000 sympathisants. Et elle est très, très active dans la région. Elle est notamment à l'origine de l'érection de nombreuses stèles à Marignane, à Perpignan, à Théoul-sur-Mer. Alors on va aller retrouver Jean-François Collin et quelques amis à lui, chez lui, pour revenir sur leur parcours au sein de l'OAS et sur les polémiques suscitées par les stèles et autres initiatives prises par cette association. Ça sent bon, ça sent le jasmin.
Oui, vous vous mettez où vous voulez.
Jean-François Collin, je suis un Français d'Algérie et un résistant patriote et président de l'association de défense des intérêts des anciens détenus et exilés politiques de l'Algérie française. Et lieutenant parachutiste, blessé au combat, décoré de la Légion d'honneur et exclu de la Légion d'honneur.
Je vais vous demander à tous de vous présenter.
Paul Stéphanie, métropolitain, ancien parachutiste et militant de l'Algérie française.
Jean-Pierre Papadatch, Français d'Empire, je suis né à Madagascar, combattant de l'OAS, ancien membre de Jeunes Nations.
Guillaume Régis, je suis né en Algérie et j'étais dans l'OAS, aussi bien au Maquis qu'à Ouara.
Pour ce qui est de l'ADIMAD, c'est une association qui a été créée en 1967 à la demande du général Salan qui était toujours incarcéré à la prison de Tulle. À ce jour, l'association compte 2800 adhérents qui comprennent naturellement des anciens de l'organisation, des anciens détenus, des sympathisants et également des membres de l'organisation qui n'ont pas été arrêtés et qui ont vécu en exil ou qui sont revenus en métropole après l'amnistie.
Vous-même, vous avez été en prison ?
Oui, j'ai été en prison pendant 5 ans, de février 62 à début 67. Ce sont des faits amnistiés, il est inutile de les rappeler, sauf que je peux vous dire que j'ai été condamné à 12 années de réclusion criminelle pour la chose. Je n'ai jamais fait d'attentat aveugle, c'était des cibles bien précises, d'amis du FLN, de gaullistes, de communistes, donc c'était tout naturellement, j'ai lutté contre eux.
Et c'est pour ça, c'est parce qu'il était chef des Barbouzes que vous avez attenté à la vie d'Yves Le Tac.
Yves Le Tac était un des patrons des Barbouzes, il y avait plusieurs organisations de Barbouzes. Ce monsieur a envoyé en Algérie des centaines de gens payés grassement pour torturer, en dehors de toutes les voies légales, des patriotes. Si on ne réplique pas à ça, c'est qu'on est un émasculé. Il avait pris ses risques. Moi, j'ai pris les miens. Lui, il est parti se coucher dans son lit. Il est mort de vieillesse et moi, je suis parti en prison. Mais moi, je ne me plains pas. Hein.
Comment vous avez su que c'était lui ?
J'avais des relations. Hein. Naturellement, les militaires m'ont averti immédiatement. Hein. Et m'ont dit, il y a une ordure qui est là. Et voilà. Donc, j'ai rendu compte à mes chefs, hein, le lieutenant Godot et le capitaine Sergent. Et j'ai monté l'opération hein, pour qu'on l'élimine. Là, j'ai failli. J'ai pas réussi.
C'est de là que vous êtes parti en prison après ?
Eh ben oui, j'ai été arrêté quelques temps après et j'ai été condamné pour ça. Mais je regrette rien. Hein. Je regrette de ne pas avoir fait plus.
Inter, actualité.
Dans un autre style, un autre commando OAS à Paris cette fois.
18 février 1962.
À l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, fusillade cet après-midi. 4 ou 5 hommes essayaient de pénétrer dans une chambre de l'hôpital. Ils ont été repoussés par les gendarmes de garde.
La fusillade a fait 2 blessés graves, un gendarme et l'un des attaquants. Le commando OAS essayait de se diriger vers une chambre du Val-de-Grâce où est actuellement soigné M. Yves Le Tac, commandant de réserve, ancien président du comité de soutien au général de Gaulle, tout au moins pour Alger. Le blessé était soigné au Val-de-Grâce après qu'il ait été hospitalisé à Alger déjà à la suite d'un attentat OAS. Yves Le Tac avait été l'objet d'une première tentative il y a plusieurs mois. Son véhicule, une 2 chevaux, avait été piégé à Alger, 3 kilos de plastique. Yves Le Tac s'en était aperçu à temps. Un peu plus tard, il était mitraillé en plein jour dans un faubourg d'Alger à Saint-Eugène par des Européens qui réussissaient à prendre la fuite. C'est depuis cet attentat que M. Le Tac était en traitement. Il a pu échapper aujourd'hui donc à la pseudo-justice expéditive de l'OAS.
Vous parlez d'attentats ciblés. Il y a eu aussi des attentats aveugles.
Non, c'est absolument faux.
Le 2 mai, il y a 51 ans, à Alger, il y avait des explosions, une 60aine de morts sur le port d'Alger.
L'OAS n'a jamais mis de voiture piégée. À aucun cas, jamais l'OAS n'a fait d'attentat aveugle pour tuer. C'était des cibles. Et alors, s'il y a eu quelques bavures, ce qui peut arriver dans un combat révolutionnaire, hein, c'est vrai, mais ça n'a jamais été que de très rares bavures et sûrement pas de masse. Les voitures piégées, c'est le signe soit de service secret, soit du FLN. Ça, c'est clair et net. Quant à l'attentat dont tout le monde se parle, l'attentat de la petite Delphine Renard, c'était un attentat contre Malraux et c'est une bavure regrettable, mais qui n'est qu'une bavure. Et que, si on peut se compatir au sort de la petite Delphine Renard, je vois bien que personne ne compatit aux dizaines, aux centaines, aux milliers de victimes abominables du FLN. Quand on émascule les gens, quand on leur coupe les testicules, qu'on les met dans la bouche, qu'on éventre les femmes et les enfants, qu'on les cloue sur des portes, jamais l'OS n'a fait des choses comme ça. On n'a jamais posé de bombes au hasard. Ça, c'est les méthodes FLN. À Alger, dans les, aux Milk Bar, partout, ça, c'était le FLN, c'était pas nous.
Dans l'hypothèse où il y a eu des bavures, quand il y a eu des bavures, on a parlé de ratonnades, l'OS a fortement sanctionné les gens, justement, qui avaient fait ces ratonnades. Parce que l'OS était totalement opposé à tuer de manière aveugle.
L'OS a exécuté des membres de l'OS, ouais. En particulier à Oran et à Alger. Je connais au moins deux exemples de, gars, de gens de chez nous, de l'OS, qui ont été exécutés parce qu'ils avaient commis des attentats incontrôlés, incontrôlables, des attentats qui n'avaient pas lieu d'être. Ils ont été exécutés. À Oran, il y a un gars dont le frère a été tué par le FLN. Ce gars, il a pris un calibre, un revolver, et il est descendu et il s'est mis à tuer des Arabes, par vengeance. Et il a été jugé par l'OS et exécuté parce qu'il avait contrevenu aux ordres qui étaient de surtout pas faire d'attentats aveugles sur des innocents, sur des civils innocents.
Les actualités françaises, 14 février 1962.
La campagne du plastique continue. Cette offensive en visant M. André Malraux a fait la plus pitoyable des victimes, une fillette de 5 ans qui a failli perdre la vue. La liste des explosions s'allonge. L'OAS comprendra-t-elle la criminelle folie de ces méthodes aveugles qui heurtent toutes les consciences? Passant outre à l'interdiction de toute manifestation formulée et réitérée par le gouvernement, certains partis et groupements ont voulu manifester à la Bastille contre l'action de l'OAS. Des forces policières nombreuses avaient été massées pour faire respecter la décision du gouvernement. Et de sérieuses échauffourées se déroulèrent entre services d'ordre et manifestants, laissant le triste bilan de 8 morts et de 150 blessés.
Entrez, je vous en prie.
Merci. Je m'appelle Delphine Renard et quand j'avais 4 ans et demi, le 7 février 1962, j'ai été blessée par une bombe de l'OAS posée sur ma fenêtre, une bombe qui était destinée à André Malraux, qui à l'époque était ministre de la Culture et qui habitait l'étage au-dessus. Je me souviens d'un basculement, tout d'un coup ne plus rien comprendre, être dans le noir, un bruit infernal, être un peu hors du temps, basculer vraiment hors du temps, et puis un sentiment de solitude, et après je ne me souviens pas. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. J'ai été d'abord aveugle pendant 2 mois, puis j'ai retrouvé la vision de près. Et puis j'ai été opérée aux États-Unis parce qu'il y avait un très bon chirurgien plastique aux États-Unis qui m'a permis de retrouver un visage parce que j'étais tout à fait défigurée par l'explosion. J'ai conservé des tas de bouts de verre et de bouts de métal dans la figure, d'ailleurs. J'en ai même encore quelques-uns aujourd'hui. Et puis, mes blessures m'ont rattrapée puisque je suis devenue complètement aveugle dans un deuxième temps à cause d'un glaucome post-traumatique. Donc, à 30 ans à peu près, j'ai perdu complètement la vue. Et avant, j'étais très visuelle. J'étais devenue critique d'art. Et je faisais de la peinture moi-même. Donc évidemment, devenir complètement aveugle, ça a complètement chamboulé mon existence. Disons que je suis une victime collatérale des exactions de l'OAS. Et j'ai envie de prendre la parole en ce nom, étant donné que le souvenir de l'OAS est encore beaucoup trop vivace aujourd'hui. Mais vivace, malheureusement pas dans le bon sens, c'est-à-dire pour se souvenir des horreurs qu'ils ont commises. Mais au contraire, les terroristes de l'OAS sont glorifiés aujourd'hui au nom d'idéologies malvenues et soutenues par l'extrême droite. Moi, pendant des années, je ne me suis pas souciée de cette mémoire parce que je pensais naïvement que l'histoire ferait son œuvre. Mais j'ai découvert que Au contraire, les tenants de l'OAS continuaient à promouvoir une histoire véritablement révisionniste, voire négationniste, de la fin de la guerre d'Algérie. Certaines lois, comme celle de 2005, qui demandent d'enseigner tous les bienfaits de la colonisation, sont dans la droite ligne de cet état d'esprit malheureux.
Alors aujourd'hui, ces anciens de l'OAS disent, c'est malheureux ce qui est arrivé à cette petite fille, mais ça n'est qu'une bavure dans le combat que nous menions.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de bavures, et dire ça, c'est comme si ça légitimait d'assassiner les gens s'ils ne sont pas des bavures. S'ils avaient tué Malraux, ils n'auraient pas dit que c'était une bavure. Je crois que tous les conflits ne peuvent se résoudre que par le dialogue, par la négociation, par la réflexion, et jamais par le sang, par la haine et par les bombes. Qu'est-ce que ça signifie qu'un État amnistie des gens qui ont commis des assassinats au nom d'idéologies anti-républicaines ?
C'est une espèce de logique passionnelle. Les gens ne raisonnaient pas. Vous ne pouviez pas raisonner, vous ne pouviez pas échanger des arguments. C'était blanc ou noir. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous.
Jean-Pierre Papadatch, Français d'Empire, je suis né à Madagascar. Je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. Moi, je me suis engagé dans ce combat parce que mon père était officier, se battait en Algérie. J'avais un frère qui était dans un commando de chasse. Ma démarche était la démarche d'un patriote qui se battait pour conserver des départements français. J'appartenais au mouvement nationaliste. Le plus emblématique, c'est Jeunes Nations. Par rapport à l'OAS, nous étions clandestins depuis 1958. Ce qui fait que quand l'OAS est né, nous avions déjà nos réseaux de contact, nous avions déjà nos planques, nous avions déjà notre armement. Et après, quand il y a eu un mouvement de réunification de tous les partisans de l'Algérie française, eh bien, on a intégré l'OAS. Moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les militants politiques parce que je suis d'abord un militant politique. Un homme qui met sa peau au bout de ses idées, il faut le traiter dignement.
Par exemple, qu'est-ce que vous pensez d'autres groupes, par exemple Action Directe ou même des gens d'Al-Qaïda? On peut dire qu'ils se battent pour des idées politiques.
Pour moi, ce sont des combattants. J'ai du respect pour l'homme qui met sa peau en avant. Ce sont des gens qui savent pourquoi ils se battent, qui veulent quelque chose. Maintenant, attention, quand on se bat pour un idéal, on n'a pas le droit de tout faire pour faire triompher cet idéal. C'est ce que je reproche aux gens du FLN. Ça a été la terreur. Mais si les Français d'Algérie ont été amenés à prendre les armes, c'est parce que les forces normales, les forces légales, ne les protégeaient plus. Jusqu'en pratiquement 61, l'armée française et les forces de l'ordre avaient un ennemi, c'était le FLN. Et brusquement, qu'il y a une trêve, l'armée garde l'arme au pied et on se retrouve avec des adversaires armé, à ce moment-là, il a bien fallu qu'il y ait un remplacement des forces armées et de la police. Et si parfois il y a eu des excès, c'est que malheureusement, les gens qui sont engagés dans l'OAS n'étaient pas nombreux et la population française algérienne était très nombreuse, il fallait la protéger. Mais quand vous êtes une minorité, eh bien, vous employez les moyens que vous avez sous la main. Mais il n'y a jamais eu au départ la volonté de faire des attentats aveugles, de terroriser, de massacrer. Non, il y a eu un réflexe de défense. C'était les gens qui étaient dos au mur et qui ont fait ce qu'il fallait.
Mais en même temps, il y avait quand même une forme de terreur. Même les slogans, le monte l'OS et partout.
Une terreur pour les ennemis de la France. C'est-à-dire pour les gaullistes, pour les communistes et pour les terroristes FLN. Eux ont cherché à les terroriser, évidemment. Mais tout le reste, ça n'existait pas.
Nostalgérie, nostalgique de l'Algérie française qui ne regrette rien et qui reconstruise à leur façon l'histoire de leur guerre. Certains que s'ils avaient réussi pour l'opinion aujourd'hui, ils ne seraient pas d'anciens terroristes ni d'anciens assassins, mais des héros tout simplement
comme nos grands résistants. C'est en tout cas ainsi qu'ils se voient entre eux et aux yeux et au cœur d'un certain nombre de pieds noirs de ces rapatriés qui, en 1962, n'avaient, disait-il, que le choix entre la valise ou le cercueil. La valise ou le cercueil, c'est la formule qui vient immédiatement à l'esprit dès que on évoque les pieds noirs, sauf qu'il y a des exceptions. Tous les pieds noirs ne collent pas à l'image des pieds noirs, évidemment. Exemple, Raymond Boineau. Raymond Boineau, ben lui, il n'est pas parti. Il a fait sa vie en Algérie jusqu'en 1994 et il faisait partie des petits pieds noirs, non pas les gros colons qui faisaient le burnou. Et en 1962, Raymond n'a été chassé par personne.
Bonjour monsieur. Merci. Merci. Alors là, monsieur Boineau, on se trouve chez vous, dans votre appartement, à 7.
Oui, je suis né en 1937, à Oran, mais par accident. Mon vrai lieu de naissance, c'est Port-au-Poule. C'est un petit village de pêcheurs. Dans ma famille, ils étaient pêcheurs, de père en fils. En 1848, les ancêtres du côté paternel sont venus d'Espagne s'installer en Algérie. Il y a une baie qui est Arzeux d'un côté, Mostaganem de l'autre. Au fond de cette baie, il y a ce petit port. Chez moi, surtout, enfin, on n'était pas riche du tout. Mais enfin, on n'a jamais eu faim. Alors, au village, c'était essentiellement peuplé d'Européens. Et il y avait à côté, un peu plus loin, le Douar, qui était le village arabe. Et oui, il y avait quelques maisons en ciment, mais la plupart du temps, c'était des maisons en terre, enfin, en torchis, et voilà. On n'y allait pratiquement jamais, quoi. C'était un monde colonial, comme on disait à l'époque. Le dernier des pieds noirs, il se sent supérieur au premier des Arabes, au premier des Algériens. C'est la différence, quoi. Et la différence qui entraîne très vite le sentiment de supériorité. Quand la guerre a éclaté, je ne dis pas que ça a été un éblouissement, mais très vite, dès 1956-1957, mes positions personnelles, que je gardais pour moi, étaient différentes de la majorité des pieds noirs qui nous entouraient. Je peux rendre hommage à des gens comme, François Mauriac, par exemple, ou Aragon, etc. Des gens qui m'ont aidé à comprendre que... c'est difficile de dire que les Algériens allaient devenir indépendants. Non, ça, je ne crois pas. Mais qu'ils avaient le droit, en tout cas, à une sorte d'égalité de droit avec les Européens. Peut-être que la période où j'ai le plus peur, c'est pendant l'OAS, justement. Il y avait... Sur notre maison, vous savez, le sigle OAS, ça avait été écrit, quoi. Et alors, le matin, quand je partais à l'école, quand ma mère était dehors, toujours, je crachais dessus, comme ça, que ça. Ah, et alors, je me rappelle toujours, elle regardait à droite, à gauche, si quelqu'un avait pu me voir, vous voyez. Et je me souviens d'avoir eu peur une fois, parce que dans la cour de l'école, où nous étions donc les 5 instituteurs, il y en a un qui ramassait les cotisations. Parce qu'il fallait cotiser. À l'OAS, c'était un moyen de montrer qu'on adhérait aux idées. Il a demandé, toi, etc. Puis il m'a sauté. Mais ça m'a fiché un peu la trouille, parce que je me suis dit, oulala, ça ne va pas tarder à avoir un problème à la maison. Toute cette période de l'OAS, ça a été ça. Pas de discussion possible. Mais alors, il y a eu toute la période où l'OAS s'est durci, où on éliminait tout ce qui avait la couleur arabe, tout ce qui avait l'aspect arabe. Les femmes de ménage, que l'on tuait systématiquement. Les pompistes. J'étais là, à un endroit, devant une station-service. Ça devait être en 61. Et j'ai entendu deux coups de feu. On s'est retourné et le gars venait d'être descendu. Le gars qui servait à la pompe, il venait d'être descendu, il était là, allongé. Ça, je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux. Et évidemment, je n'ai pas vu qui a tiré, je n'ai pas vu l'autre, tac, tac. Il s'est sauvé. C'était devenu une guerre de desperados. On tue pour tuer, on tue pour tuer. Tout celui qui était dans cette communauté-là, on le tue. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il n'a jamais rien fait. Peut-être qu'il était du côté des Français. On ne sait même pas. Mais bon, moi j'ai un collègue d'Oran, qui était instituteur, et qui lui a été tué par l'OAS. Oui, ils sont venus chez lui... Ils ont frappé à sa porte, il a ouvert, évidemment, qui était un responsable syndical, et tac, tac, ils l'ont descendu comme ça. Oui. Il y en a un autre, alors, qui était dans mon village, c'était le seul instituteur dans cette école qui, lui, a eu... ils ont plastiqué l'école, oui, parce qu'il avait son logement dans l'école. Heureusement, il n'était pas là. C'était pas du tout des militants du FLN, pas du tout, c'était des gens qui avaient des positions libérales, quoi, c'est tout. Mais à partir d'un moment, simplement parler de modifier le statut, d'introduire un peu plus de droits, ça suffisait pour risquer d'être éliminé, ou comme celui-là, que toute la maison était envoyée en l'air, quoi. Le racisme pied-noir, c'est un racisme spécial.
Pierre Nora, historien.
C'est un racisme à la fois très violent, et si le mot n'était pas ridicule, très amical. Ils cohabitaient avec, ils vivaient les gens dans la ferme ou dans les fermes, on vivait avec. Le rapport n'était pas uniquement d'hostilité, il était un mélange de paternalisme, de mépris, d'affection. Écoutez, les nounous étaient arabes, donc à beaucoup d'égards. Vous voyez, c'était très bizarre, si vous voulez. Puis en même temps, civiquement, rien. À aucun moment, il n'y a eu aucune concession qui était faite. La fin de non-recevoir, ça devait être comme ça. Donc c'était impossible. Bref, c'était une structure de vie coloniale, il n'y a pas d'autre mot, et le temps du colonialisme était dépassé.
Est-ce qu'on sait à peu près combien il y avait de personnes au sein de l'OAS ? Est-ce qu'on sait à peu près ?
Quelques milliers au total entre la métropole et l'Algérie. Depuis les commandos d'action vraiment actifs, qui étaient quelques centaines.
Les deltas et les alphas ?
Les deltas, les alphas... Oui. Les collines à Oran, voilà, donc il y a quelques centaines de membres. Ensuite, des réseaux de soutien, des réseaux qui faisaient de l'action. Quelques milliers au total entre la métropole et l'Algérie.
Moi, j'étais alpha.
Vous étiez dans les alphas ?
Oui. Les deltas, leur patron s'appelait Roger de Gueldre, D comme delta. Et alpha, c'était A comme Achard.
Mais on travaillait souvent ensemble.
Les commandos Delta, c'était un petit peu ce qu'on peut dire le bras armé de l'OAS.
Alpha, pareil. J'avais même été condamné à mort par le CNRA, qui était le Conseil National de la Révolution Algérienne.
Condamné à mort ?
Oui. Et j'ai été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en France. Et j'ai fait 6 ans et 3 mois de prison. Bon, j'avais un peu endommagé le patron du Parti communiste algérien, membre du CNRA. Un Français.
Qui s'appelait ?
Vous voulez savoir son nom ? Il s'appelait Locussol. À la Libération, c'était le chef de cabinet du ministre communiste de l'air, Tillon, parti sur sa demande en Algérie comme commissaire de la République, qui a tout noyauté là-bas, et qui a bien combattu la France.
Un traître.
Oui, jusqu'à ce que... Mais moi, j'étais au SAG. Nous travaillons sur renseignement de la DST. On faisait, si vous voulez, ce qu'eux ne pouvaient pas faire. Et je suis venu d'Alger en France pour ça.
Ah, c'était en France que vous avez essayé de la moucher ?
Oui, j'ai même réussi.
Vous l'avez tué ?
Pardon ?
Vous l'avez tué ?
Eh oui.
Éliminé.
Je l'ai... exécuté. Exécuté.
En France ?
Bien sûr, chez lui, là où il se cachait. Lui, c'était un communiste, un vrai. Et c'était aussi le patron de l'appareil clandestin du Parti communiste français. L'évasion de Halleck, tous ces trucs-là, c'était lui qui organisait. Et grâce à lui, de nombreux soldats français sont morts. Et maintenant, je peux vous ajouter une chose, c'est que si je n'avais pas fait ça, je ne m'en serais jamais remis. Pour ça, maintenant, j'ai l'esprit tranquille.
Tout à l'heure, notre correspondant à Alger nous parlait d'un hold-up à Oran qui
avait rapporté à ses auteurs plus de 2 millions d'anciens francs. En fait, il s'agit, je pense, de plus de 2 milliards qui ont été enlevés à la Banque d'Algérie.
Interactualité, 23 mars 1962.
Deux agences, United Press et Associated Press, l'affirment. C'est à 16h40 qu'une quinzaine d'hommes armés de pistolets mitrailleurs ont fait irruption dans le bâtiment de la Banque de l'Algérie, en plein centre de la ville, boulevard Gallieni. Après avoir neutralisé les policiers de garde et mis en respect le personnel, ils ont fouillé les coffres et les caisses pendant une demi-heure et ils sont repartis avec ce butin jamais atteint par l'OAS, jusqu'ici du moins, puisqu'il représente une valeur de 2 milliards 325 000 anciens francs, très exactement. L'effet de surprise a été complet et la sirène d'alarme n'a pu être actionnée.
On a souvent dit que les moyens de financement de l'OAS se faisaient à travers des hold-up à Oran, notamment il y a eu la banque d'Oran.
Alors, je peux vous le confirmer parce que je l'ai fait moi-même. Et nous allions retirer l'argent qu'on nous remettait et nous donnions un reçu. À la banque, nous donnions un reçu.
Un reçu avec le montant qu'on vous avait donné.
Exactement.
Pourquoi ? Vous comptiez le rendre, l'argent ?
Mais on ne comptait rien rendre du tout. Mais pour montrer que les choses étaient faites dans les règles. Nous n'étions pas des bandits.
Il y a eu beaucoup d'argent comme ça ?
Oh oui, un peu.
Il y a eu le plus gros hold-up mondial à l'époque, à la Banque d'Oran. Hein. Il y a eu 2 milliards de francs de l'époque, là. Enfin, 2 milliards d'anciens francs de l'époque.
Non, mais nous, quand on faisait des hold-up, en général, c'était 40, 50 millions de francs de l'époque. C'était déjà beaucoup d'argent.
Vous vous présentiez à la banque ?
Oui.
Vous demandiez au guichetier de vous ?
Rendez-vous, hein. Rendez-vous, pas au guichetier, c'était avec les... Et jamais la police ne nous a attendus dans ces cas-là. Les banques nous remettaient l'argent, nous leur donnions un reçu et on repartait avec l'argent.
Ce qui veut dire qu'il y avait une symbiose totale entre la population et les résistants OAS. Il y avait une symbiose complète, tout le monde était résistant. Alors, beaucoup de gens n'ont pas de courage physique, mais ils ont un courage, d'autres, ils aident d'une autre manière. Il y a des gens qui distribuaient des tracts, d'autres qui peignaient sur les murs des slogans de Gaulle et Galmandès, d'autres qui posaient des plastiques, d'autres qui étaient dans des commandos Delta, d'autres qui faisaient autre chose, mais tout le monde participait à 99%. Toute la population était pro-Algérie française et donc pro-OAS.
Je vais vous raconter un truc.
Raymond Boineau.
Il y a une des, je fais du théâtre, hein, et une des premières pièces après l'indépendance, hein, que j'ai voulu monter, elle s'appelle Grand-peur et misère du Troisième Reich de Bertolt Brecht. C'est une pièce très particulière qui est composée de 24 scénettes. Et c'est une pièce très éclairante pour voir comment, par la peur, par la misère, petit à petit, le fascisme s'installe. Grand-peur et misère du Troisième Reich. Et bon, là, c'était par rapport au régime nazi, à l'installation du régime nazi. Et on voit comment ça fonctionne, comment on mobilise les gens, comment on leur fait peur. Par exemple, vous voyez quelque chose que disait l'OAS. Nous allons passer tel jour pour faire une collecte, pour ceux qui sont dans le maquis, parce que l'OAS avait fait un maquis aussi. Ceux qui sont dans le maquis. Alors, préparez 2 boîtes de sardines, 1 boîte de trucs, ça. Et les gens, évidemment, le faisaient, bien entendu. Comme ça, quand la collecte passait, hop, on pouvait le leur remettre. Voilà. Les cotisations, dont je vous parlais tout à l'heure, on fait payer une cotisation. Donc, là, pareil, vous ne payez pas la cotisation, ça veut dire que, bon, que vous n'êtes pas pour. Voilà. Alors, Grand-peur et misère du Troisième Reich, de Brecht, explique très bien ça. Les parents qui arrêtent de parler parce que y a une scène, à table, comme ça, les parents parlent, puis leur gamine disparaît. À un moment donné, elle sort de table, etc. Et puis bon, le parent s'en aperçoit pas tout de suite. Et au bout d'un moment, ils se disent, ils commencent à se... Mais attends, qu'est-ce qu'on a dit? De quoi on a parlé? Est-ce qu'on a dit ça, etc. Ils soupçonnent que la gamine ait été les dénoncer. Oui, mais c'était ça. La méfiance était telle que tout le monde soupçonnait, à l'intérieur des familles, à l'intérieur des amis, que d'amitié rompue, justement, parce que on n'avait pas du tout les mêmes
Vous achetiez l'Express, qui était à l'époque vraiment favorable.
Alors je m'étais abonné, justement. À un moment donné, l'Express a senti ça aussi, a fait ça, et nous l'envoyait sous pli fermé. Une enveloppe anonyme, comme ça, on recevait l'Express comme ça, oui.
Pour pas que les gens voient ce que
vous
lisez.
Pour pas que les gens voient ce qu'on lisait. Mais vous alliez chez le marchand de journaux, vous achetiez le journal, ben ça vous faisait repérer, vous voyez, ça suffisait pour vous faire repérer.
Vous êtes débarrassé, d'ailleurs, il me semble, de votre collection de l'Express.
Ah oui, et oui, à un moment donné. Bon, vous savez, on savait plus trop quoi penser, qui était pour qui était contre qui. Alors, bon, je me suis débarrassé de ces collections-là. C'est mon père qui les a emmenés pour les noyer, pour les jeter dans l'eau. Et alors, quand on attache une pile de journaux, ben ça flotte. Alors, c'est mon père qui me racontait ça. Oh, il me dit, j'ai eu du mal avec la rame pour envoyer ça dans le fond de l'eau. Donc, je vous dis, c'est peut-être la période où j'ai eu de toute la guerre, c'est peut-être la période où j'ai eu le plus peur.
Hier soir, donc, aux États-Unis, la chaîne de radio ABC,
Interactualité,
annonce qu'un accord vient d'être signé entre l'OAS et le FLN.
17 juin 1962.
La nouvelle avait été câblée aux États-Unis par le correspondant à Alger de cette chaîne de radio. Le journaliste américain allait même jusqu'à énumérer les trois points précis de cet accord: amnistie pour les membres de l'OAS, participation des Européens à la force locale de police et encore reconnaissance de l'OAS comme représentante de la communauté européenne. Ainsi formulée d'ailleurs, cette dernière condition paraissait assez difficile à admettre, une pareille hypothèse ayant été à plusieurs reprises déjà et très catégoriquement démentie à Tunis par le FLN, dont l'agence de presse écrivait encore hier « D'une manière ou d'une autre, il faut que l'OAS soit détruite. »
Certains voulaient faire de Oran, justement, une ville française.
Oui, retranché.
Ah ben, on le souhaitait, en tout cas. On le souhaitait, mais ensuite, c'est les accords. Alors, les accords Susini, effectivement, ont tout mis en l'air. Mais nous avions un fort espoir, effectivement, que ça se fasse.
Pourquoi alors ces accords ont tout mis en l'air?
Parce que après le putsch d'Alger qui avait échoué, il y a toujours eu des contacts avec les officiers, avec l'armée. Il y a toujours eu dans les régiments des gens qui disaient « on ne laissera pas faire, on ne laissera pas faire ». Et le colonel Château-Joubert, notamment, qui dirigeait le Constantinois, a tout fait pour faire un nouveau soulèvement militaire. Et tout était en place et les gens lui avaient dit « d'accord, de toute façon, on ne laissera pas baisser le drapeau ». Mais quand ils ont su que l'OAS faisait des tractations avec le FLN au Rocher Noir et qu'il y avait des accords Susini-Mossefaille, eh bien, ils ont dit aux gens de l'OAS qui voulaient continuer à combattre, à ceux de l'Oranie et à ceux de Constantinois, c'est cuit, c'est fini, maintenant on ne fait plus rien, c'est foutu.
Tout le monde pose les armes.
Tout le monde pose les armes. Et je peux vous dire que ça a été donc une initiative de Susini, mais le gouvernement français a obtenu par pression que le général Salan, en prison, et le général Jouot, en prison, accepte ces accords Susini-Mossefaille et donne l'ordre d'arrêter. Et je vais vous dire, le vieux militant politique que je suis, dans le mouvement, on nous avait toujours appris que dès qu'un chef est en prison, il n'est plus crédible. Parce qu'un chef en prison, on peut faire pression sur lui. Sur lui, sur sa famille, ainsi de suite. Donc il n'est plus libre. Et dès que notre chef était en prison, on n'attendait plus rien d'eux. Et là, c'était des militaires, bon. Et puis, il y a autre chose qu'on oublie de dire. Moi, j'ai bien connu le général qui a mis en place le plan de terre brûlée de l'Algérie. C'était un vieux général qui avait fait le débarquement de l'île d'Elbe, mais qui voulait servir. Salan lui avait dit, Salan, il avait comme pseudo soleil, lui avait dit, écoute, Yvon, tu vas faire le plan de terre brûlée de l'Algérie. Il avait fait le plan de terre brûlée de l'Algérie. C'était la destruction des puits de pétrole, des aéroports, des ports, de toutes les infrastructures, des barrages. Ce travail a été fait pendant des mois. Il a été caché dans les locaux des archives de l'écho d'Alger. Les plans de terre brûlée étaient en place. Eh bien, la terre brûlée a été arrêtée. Les commandos ont été démobilisés. Et puis, ça a été la fin. C'est pour ça que les accords Susini-Mossefaille ont été criminels.
Mais la politique de la terre brûlée, elle a été mise en place à la fin.
Non, pas du tout.
À Alger, il y a la bibliothèque qui a brûlé.
C'est un de mes amis. Oui. C'était un avertissement. L'incendie de la bibliothèque d'Alger, c'était une pression. C'était pour montrer au FLN que l'OS pouvait encore faire du mal. Bon, c'était un crime contre la culture. Mais enfin, ça n'a pas fait de mort. Effectivement, c'est Bill qui a mis le feu.
Bill.
Liber Nerucci.
C'est la seule action de terre brûlée qu'on puisse évoquer parce que.
Oui, c'est pas de la terre brûlée.
En réalité, il n'y a rien eu de fait. On leur a laissé un pays intact.
Mais à Oran, ça a brûlé aussi. Le port a brûlé, par exemple.
Le port, oui, mais voilà, c'est tout. C'est tout.
Quatre cuves qui brûlent, voilà. C'est pas la terre brûlée. La terre brûlée, c'est faire sauter les
puits. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'est tout faire sauter. Tout.
Vous vouliez ?
Ah oui. Ah oui, moi j'aurais voulu qu'on rase l'Algérie complète, qu'on la laisse exactement comme on l'a trouvée en 1830, de sorte à ce qu'aujourd'hui ils ne puissent pas se targuer de dire qu'on les a colonisés.
Lundi 9 octobre, l'organisation armée secrète a décidé l'interruption.
Merci à toutes et à tous. C'était Non, rien de rien, les anciens de l'OAS ne regrettent rien. Le premier volet de cette série de reportages de Charlotte Perry, donc vous comprenez qu'on continue demain. Autre chose, vive la banqueroute, comment la France a réglé ses dettes, de Philippe le Bel au général de Gaulle, le bouquin des éditions Fakir, écrit par notre ami François Ruffin, sera présenté ce soir à la librairie Quilombo. À 19h exactement. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis. Sur le site labas.org, la-bas.org, vous pouvez réécouter cette émission. Et puis, la page Facebook de là-bas si j'y suis vous attend pour vos commentaires. Toujours bienvenue à la technique aujourd'hui. Élodie Royer et Ronan Mahé, Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission, assistée de Pierre-Yves Bulteau, Marion Dupont. Pas attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter présente Lincoln de Steven Spielberg en DVD et Blu-ray.
L'esclavage, monsieur, c'est fini.
Dans un pays déchiré par la guerre de sécession, revivez la lutte d'Abraham Lincoln pour l'abolition de l'esclavage. Lincoln, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg avec Daniel Day-Lewis, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur. Un DVD et Blu-ray France Inter.
On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis, les 16h sur France Inter. Les informations, Laetitia Gaillet.
Les analyses sont formelles. Aucune trace de coronavirus n'a été détectée chez le patient hospitalisé à Tours. Information donnée cet après-midi par le ministère de la Santé. Edward Snowden nie être un traître. Le jeune Américain ex de la CIA, à l'origine de la révélation sur l'existence d'un vaste système d'espionnage des communications, annonce aujourd'hui dans une interview qu'il a de nouvelles révélations à faire sur la surveillance d'Internet par les États-Unis. Un village libanais pro-rebelle et proche de la frontière syrienne a été victime d'un raid aérien aujourd'hui. Un hélicoptère a bombardé Arsal. Selon un responsable local, il y aurait des blessés. L'armée libanaise met en garde aujourd'hui Damas. En cas de nouvelle violation syrienne, la riposte sera immédiate. Abou Qatada va pouvoir peut-être enfin être extradé en Jordanie. Le Parlement jordanien a ratifié aujourd'hui un accord avec la Grande-Bretagne. Amman réclame l'extradition de l'extrémiste Abou Qatada, accusé de terrorisme. Comme l'avaient annoncé ses avocats lors de sa première comparution, Ariel Castro a plaidé non coupable aujourd'hui devant un tribunal de Cleveland dans l'Ohio. Ariel Castro, c'est cet homme qui a séquestré et violé pendant 10 ans 3 jeunes américaines dans sa maison. Le procureur américain en charge du dossier a lui affirmé qu'il envisageait de requérir la peine de mort contre Ariel Castro. Selon Timothy McGinty, ce que ces jeunes femmes ont subi dépasse l'entendement. En Grande-Bretagne, la cigarette électronique aura un statut d'ici 2016. celui du traitement sans ordonnance. Le but, selon l'Agence britannique de régulation du médicament, est d'améliorer leur qualité d'ici là, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Les fabricants de cigarettes électroniques devront par exemple certifier la qualité de leurs produits en prouvant par exemple que la quantité de nicotine délivrée est exacte. Cela dit, les tests cliniques ne seront pas obligatoires. Le gouvernement français revoit à la baisse ses prévisions de recettes budgétaires pour cette année, moins 8 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu dans la loi de finances, selon Bernard Cazeneuve, le ministre du budget. C'est la conséquence de la situation économique. La culture et les industries culturelles doivent être exclues d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. C'est l'avis aujourd'hui de Jean-Marc Ayrault. Le chef du gouvernement a déclaré devant les députés que la France usera de son droit de veto politique si la culture donc et les industries culturelles ne sont pas mieux protégées. En mars dernier, Bruxelles a défendu l'ouverture de négociations pour un accord de libre-échange avec les États-Unis sur ce sujet. La Commission européenne avait d'ailleurs inclus à l'intérieur le secteur audiovisuel. La France n'est pas la seule à être contre. 14 pays de l'Union la suivent. Les 27 examineront le dossier à Luxembourg lors de la réunion des ministres du commerce vendredi. Enfin, les vacances du gouvernement seront courtes cette année, du 2 au 19 août, a fait savoir la porte-parole du gouvernement aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, à l'issue du Conseil des ministres. François Hollande a déjà demandé aux membres du gouvernement de rester disponibles tout l'été, afin notamment de se consacrer aux dossiers chauds comme celui des retraites qui occupera la rentrée. Vous écoutez France Inter, il est 16h03. Tout de suite, Frédéric Lodéon, ah ben voilà. Carrefour de Lodéon. Allez hop, c'est parti.
On y va, Laetitia Grillé, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors c'est bientôt le beau temps, on en est sûr, je l'affirme, je le veux. Et puis on va pouvoir aller se promener pendant le mois de juillet. On peut déjà aller au festival d'Auvers-sur-Oise, bien sûr, notre partenaire. Et je vous invite aussi, si vous êtes dans la région bordelaise, par exemple, à aller à partir du 2 juillet aux Estivales de musique en Médoc. C'est la 10e édition, c'est du 2 au 11 juillet. Puis ça va commencer par exemple au château Haut d'Estournelles. Bah, ce sont des châteaux, donc il faut dire qu'il faut goûter avec modération, je suis obligé. Mais néanmoins, on peut goûter la musique sans aucune modération et avec le plaisir, je dirais, combiné de ces belles pierres, de ces terrains cultivés avec amour, du nectar qui coule par là aussi, et puis de la musique jouée par les meilleurs ensembles. Par exemple, le Quatuor Modigliani, le 2 juillet au Château Côte d'Estournelles, ils interpréteront Haydn, Beethoven et le Quatuor à cordes, bien sûr, toujours, de Maurice Ravel. Thank you. Vif et agité, c'est tiré du quatuor de Maurice Ravel, musique nerveuse scintillante qui démange un peu parfois avec ses notes répétées. On a entendu le quatuor Modigliani donc, qui ouvre les estivals de musique en Médoc, 10e édition. Je vais citer le président Jacques Hubert qui dit « Voilà, toujours la même vocation, le même cap depuis 10 ans, faire découvrir les jeunes talents qui seront les grands millésimes musicaux de demain avec une belle programmation du festival qui est consacré aux lauréats des grands concours internationaux de musique classique. C'est ce qui fait l'originalité et la spécificité de ce festival. Alors le 5, il y aura Romain Descharmes, fameux pianiste, avec Sergei Antonov, beau violoncelliste aussi, au château Lafitte Rothschild, et puis c'est dans un sous-sol magnifique, un caveau tout à fait exceptionnel. Et le 6, alors exception, à l'auditorium de Bordeaux, où nous étions avec les Victoires de la musique classique, il y aura carrément l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, dirigé par Darrel Hang, qui a gagné magnifiquement le concours de Besançon, concours de chef d'orchestre, au piano Désiré Nkawa, qui est le directeur artistique de ce festival, ces estivales, on peut même dire. Donc Brahms, Rossini, Don Juan, et puis une pièce de Leroy Anderson, la fameuse machine à écrire qui a été popularisée par Jerry Lewis. Château Lascombe, le 9, avec David Guerrier qui sait tout jouer. Il joue du cor, de la trompette, du violon. Mais là, il jouera du cor avec Sarah Nemtanou, violon solo de l'Orchestre National, Jean-Frédéric Neuburger. Allez, il n'en reste plus que deux, je vais dire. Château Branner, du cru, avec du chant, chant lyrique, Yulia Novikova. Novikova la Grande, qui va nous donner des pièces françaises du parc de Bussy, Schumann, Strauss, Rachmaninoff, donc des Russes aussi, des Allemands. Et puis, ça va se terminer le 11 juillet au château Bataillé avec le formidable Nemanja Radulovic, violoniste aussi chevelu que talentueux au piano. Tout